Chapitre 2. Clémentia, dès son arrivée à Séville, avait eu le projet d'écrire à Paul, mais, occupée de son installation et détournée par de nombreuses visites, elle avait toujours différé de le faire. Or, ce que l'on diffère se réalise rarement. Différer l'exécution d'une bonne action, c'est différer l'aumône à un malheureux. Il meurt souvent faute d'un secours donné à temps. De même, le cœur se refroidit, la bonne volonté, comme l'argent de l'aumône, c'est dépenser à autre chose et l'on oublie jusqu'à la pensée du bien que l'on voulait faire. Aussitôt que Clémentia fut complètement installée, sa belle et élégante maison devint le point de réunion d'une société nombreuse et choisie. La jeune veuve possédait le talent, aussi rare qu'inappréciable, de bien recevoir, et ce talent prenait chez elle sa source dans la bonté simple et gracieuse qui faisait le fond de son caractère. Aussi, son salon devint à la mode, et la mode, on le sait, est une magicienne puissante à laquelle nul ne résiste. Parmi les personnes présentées à Clémentia, on remarquait deux étrangers de distinction, un Anglais et un Français, qui étaient venus passer à Séville l'hiver, ce second printemps de la noble capitale de l'Andalousie. Le vicomte Charles de Briand et Sir Georges Percy étaient deux beaux types, deux nobles représentants de leurs races respectives et de leur nation. Tous deux étaient grands. Le vicomte, un peu moins svelte, avait plus d'élégance, Sir Georges plus de distinction. Briand plus de noblesse, Percy plus de dignité. Le premier plus de grâce, le second plus de naturel. Le vicomte était plus recherché dans sa mise, Sir Georges poussait la simplicité jusqu'à la négligence. Aussi lui arrivait-il parfois de mettre en été un gilet d'hiver, tout en étant, cependant, dans sa tenue, d'un soin et d'une convenance irréprochables. Il existe encore en Andalousie un ancien et déplorable usage, contraire à la dignité d'une société polie, c'est celui de donner des sobriquets, sans égard ni pour le rang ni pour le mérite. Aussi, à cause de ses immenses richesses et de sa magnificence, on désignait Sir Georges sous le nom de Monte Cristo. Et le vicomte, en raison de sa taille et de ses opinions légitimistes, fut surnommé Charlemagne. Ces deux hommes étaient des plus capables d'apprécier Clémentia. Séduit par l'heureux assemblage de tant de qualités rarement réunies, il ne devait pas tarder à comprendre que Clémentia était un être exceptionnel, richement doué par la nature, et dont le mérite était d'autant plus réel qu'elle l'ignorait elle-même. Aussi, il s'établit bientôt, entre M. de Briand et Sir Georges, une de ces rivalités secrètes, si habilement cachées par les hommes du monde, non sous des dehors affables, mais sous des formes indifférentes. Il en résulta que l'inclination de Sir Georges pour Clémentia devint chez cet homme sec, froid et blasé, un caprice violent. Et chez le vicomte, homme de cœur, mais calme et digne, cette même inclination fut sérieuse et concentrée par la crainte de se voir préférer un rival plus heureux. Cette position de chacun d'eux vis-à-vis de Clémentia intervertit les rôles naturels au caractère de leurs nations respectives. L'anglais fut aimable, empressé, galant. Le français, mesuré, timide et réservé, au point de paraître froid. Le vicomte était le fils d'un gentilhomme émigré, après avoir vu périr toute sa famille sur l'échafaud. Il était né pendant cet exil. De retour dans sa patrie, il avait perdu son frère assassiné à Rome. Son père lui-même fut tué en combattant à ses côtés pour la défense de l'ordre dans les rues de Paris. M. de Briand, alors, poussé par la douleur et le désespoir, avait quitté la France qu'il aimait, ne voulant pas être le témoin des malheurs de sa patrie. Sir Georges, au contraire, était né au milieu de la grandeur et de la prospérité, sans avoir jamais songé à autre chose qu'à satisfaire ses caprices, sa vanité et ses passions. Aussi, à 33 ans, il était dégoûté de tout. Son cœur, sec et blasé, ne comprenait plus que les jouissances matérielles. Clémentia, trop jeune et trop naïve pour pouvoir sonder les replis du cœur d'un homme du grand monde, se sentit vivement attirée vers Sir Georges. La réserve, la froideur du vicomte, la suprême élégance et l'exquise courtoisie de Sir George y contribuèrent-elles, ou bien cette préférence fut-elle le résultat de cet entraînement aveugle, inexplicable, qui attire le cœur en dépit de la raison, nous ne savons pourquoi. Toujours est-il que le cœur de Clémentia fut subjugué par les grâces, l'esprit, la distinction de Percy. Il n'est pas étonnant qu'une femme aux instincts si délicats, au goût si pur, au cœur si aimant, et qui, jusqu'alors, avait vécu dans une atmosphère simple et tranquille, fit une profonde impression sur un homme richement doué par la nature, comme l'était Sir George. Sir George possédait au suprême degré la finesse, le tact de l'homme du monde. Il connaissait à merveille tous les moyens capables de lui attirer les bonnes grâces de Clémentia, et il les mettait en œuvre, non seulement auprès d'elle, mais encore auprès des personnes qui lui étaient chères. Il avait fait venir de Londres un appareil ingénieux pour soulager les souffrances de la marquise. Il avait fait cadeau à Don Gallo d'une paire de jumelles monstres. Paco Guzman les avait surnommés ironiquement Rémus et Romulus. « Paco, mon enfant, répondait alors Don Gallo, Sir George m'assure que le fabricant en a fait seulement trois paires, une pour le prince Albert, l'autre pour le sultan et la troisième pour votre serviteur. » Sir George avait même cherché à flatter les idées de Don Sylvestre, dont l'antipathie pour les chemins de fer était connue, en lui donnant une spirituelle caricature anglaise représentant une troupe de voyageurs qui, avant d'entrer dans un wagon, saluaient la fatale machine en disant, comme jadis les gladiateurs saluant Néron, « Moriturit et salutante ». Cette satire avait enthousiasmé l'imperturbable Don Sylvestre. Après l'avoir montré partout, il avait fait encadrer richement, puis suspendu en face d'une table, improprement nommée table à écrire, sur laquelle brillait un écritoire en argent, pur de toute souillure, et une plume vierge de tout usage. Cependant, Percy n'usait pas d'hypocrisie auprès de Clémentia, non qu'il ne fût très capable d'employer ce moyen, mais il ne le jugeait pas nécessaire, et il était de bonne foi dans ses préventions contre tout ce qui est élevé, idéal ou poétique. Il avait donc du moins le mérite de la sincérité dans l'expression de ses sentiments et de ses idées, non par cynisme, mais parce qu'il les croyait les seuls vrais, les seuls générales, parmi les esprits élevés, et qu'il les considérait comme une réaction de la raison, à la fois contre les déclamations philosophiques et puritaines de la Réforme, et contre les aspirations ascétiques du spiritualisme catholique, et surtout parce qu'il regardait le scepticisme absolu comme la vérité fondamentale de toute science du monde et du cœur humain. Hélas, il n'est pas le seul, car malheureusement de nos jours, beaucoup d'hommes, ne craignant pas de fouler aux pieds tout ce que la religion a de noble et de grand, de mépriser ce qu'elle a d'idéal et de poétique, dédaignent les consolations et les encouragements qu'elle seule peut offrir en élevant toujours l'âme vers le ciel. Aussi, à mesure que l'amour s'insinuait dans le cœur de Clémentia, elle éprouva une inquiétude dont elle ne pouvait se défendre. Sir George se sentait chaque jour plus subjugué. Séduit d'abord par cette puissance que la beauté exerce sur les hommes vicieux, dominés seulement par l'amour matériel, excité ensuite par le sentiment de sa rivalité, rivalité dans laquelle il était engagé de toutes les forces de son amour-propre, et entraîné d'ailleurs par le charme irrésistible de tant de candeur et de vertu, jointes à tant d'esprit, de grâce et d'originalité, Sir George trouva, dans sa passion pour Clémentia, tout le charme, tout l'attrait de la nouveauté, et il fut de plus agréablement surpris en sentant son cœur, quelque blasé qu'il fût, encore capable de désirer ardemment une chose. Il n'y avait cependant en lui aucun sentiment de son orgueil. Sir George avait dépassé l'âge où les conquêtes flattent la vanité. Il était de ces hommes qui ne cherchent pas à briller, et qui, trop indifférents sur leur propre compte pour se soucier de l'opinion publique, sont néanmoins assez sybarites pour préférer dans leur amour les charmes du mystère à l'éclat du triomphe. De ces hommes, chez qui l'absence de toute croyance est remplacée par la religion la plus exagérée de l'honneur. Tant il est vrai que l'esprit de révolte et de scepticisme ne peuvent arracher du cœur de l'homme le besoin impérieux d'un culte quelconque, que Dieu y a placé pour lui rappeler sa dépendance. Sir George, en habile physionomiste, comprit bien vite tous les ravages qu'une passion trompée apporterait dans l'existence de cette jeune femme qui se présentait au monde pleine de candeur, confiante et sans défense. Mais il se disait « Bah, on ne meurt pas d'amour et elle est trop bonne catholique pour se suicider. » Depuis l'arrivée du vicomte, sur lequel Clémence y avait fait une impression bien autrement sincère et profonde que sur son rival, Percy était devenu jaloux malgré la préférence dont il était l'objet et que le cœur naïf et sincère de Clémentia ne savait pas dissimuler. À la première vue, Sir George ne put méconnaître combien le vicomte était un compétiteur redoutable et dès lors, tous ses sentiments éprouvèrent un changement remarquable. Clémentia aimait rechercher par un homme tel que M. de Briand, dont le mérite ne pouvait mieux être apprécié que par lui, lui apparut à travers un prisme encore plus séducteur. L'inquiétude causée par cette rivalité devint une sorte de galvanisme qui donna une vie factice à ses sentiments et fut amenée forcément par tout ce qui vibrait en lui, amour, désir matériel, orgueil, à ne se laisser supplanter à aucun prix.